10. Je travaillais dur et j'obtins de bonnes notes. Je jouais au football en automne et au baseball au printemps. En seconde, j'avais été sélectionné pour jouer dans l'équipe du lycée, dans ces deux sports. Le coach Harkness voulait que je me mette au basket également, mais je refusais. Je lui expliquais que j'avais besoin de faire autre chose au moins 3 mois par an. Il repartit en secouant la tête, attristé par l'état de la jeunesse en cette époque de déliquescence. J'allais danser dans quelques soirées. J'embrassais quelques filles. Je me fis quelques bons amis, surtout des sportifs, mais pas seulement. Je découvris des groupes de heavy metal que j'écoutais à plein volume. Mon père ne protestait jamais. Mais pour Noël, il m'offrit des AirPods. J'allais vivre de terribles choses à l'avenir, j'y viens. Mais aucune de celles que j'avais imaginées quand je n'arrivais pas à dormir ne se produisit. On avait conservé notre maison. Et ma clé ouvrait toujours la porte d'entrée. Ça faisait du bien. Si vous avez déjà eu peur de dormir dans votre voiture en plein hiver ou dans un refuge pour sans-abri, vous savez de quoi je parle. Et je n'ai jamais oublié l'accord passé avec Dieu. « Si vous faites ça pour moi, je ferai quelque chose pour vous », avais-je promis, à genoux. « Montrez-moi ce que vous voulez et je le ferai. Jurez. » Ce n'était qu'une prière d'enfant, un bel exemple de pensée magique, mais une partie de moi-même, la plus importante, y croyait, et y croit aujourd'hui encore. Je pensais que ma prière avait été exaucée, comme dans ces films à l'eau de rose qu'il passait sur la chaîne Lifetime entre Thanksgiving et Noël. Ce qui voulait dire que je devais remplir ma part du contrat. Sinon, j'avais l'impression que Dieu allait reprendre son miracle et que mon père recommencerait à boire. N'oubliez pas que les lycéens, si forts soient les garçons, si belles soient les filles, restent avant tout des enfants à l'intérieur. Alors j'essayais. Malgré mes journées chargées, surchargées devrais-je dire, entre les cours et les activités après le lycée, je fis de mon mieux pour rembourser ma dette. Je m'inscrivis dans un club de bénévoles, adopter une route. On nous attribua 3 kilomètres de la Highway 226, qui n'est rien d'autre qu'un immense terrain vague bordé de fast-food, de motels et de stations-service. Je crois que je ramassais 1 tonne d'emballage de Big Mac, 2 tonnes de canettes de bière et au moins 2 douzaines de sous-vêtements. Une année, pour Halloween, j'enfilai un pull orange ridicule et fis une collecte au bénéfice de l'UNICEF. À l'été 2012, je pris place à la table où étaient disposés les bulletins dans un bureau de vote du centre, alors que je n'avais pas encore l'âge de voter. Tous les vendredis, après l'entraînement, j'aidais mon père au cabinet en remplissant des paperasses et en entrant des données dans l'ordinateur. Les basses besognes, quoi. Tandis que le ciel s'assombrissait dehors et on mangeait des pizzas de chez Giovanni's à même le carton. Papa affirmait que tout cela serait du meilleur effet dans mes dossiers d'inscription à la fac. Et j'approuvais, sans lui avouer mes motivations. Je ne voulais pas que Dieu puisse penser que je ne remplissais pas ma part du contrat, mais parfois j'avais l'impression d'entendre un soupir de désapprobation venu du ciel. « Ce n'est pas suffisant, Charlie. Tu crois qu'il suffit de ramasser des détritus au bord d'une route pour rembourser la belle vie que vous menez maintenant, ton père et toi ?» Ce qui m'amène enfin au mois d'avril 2013, l'année de mes 17 ans, et à Monsieur Bowditch. 11. Ce bon vieux lycée de Hillview. Ça me paraît tellement loin maintenant. L'hiver, je prenais le car assis à l'arrière avec Andy Chen, un copain depuis l'école primaire. Un sportif qui avait fini dans l'équipe de basket de Hofstra. Bertie était déjà parti à cette époque-là. Il avait déménagé. Ce qui constituait une sorte de soulagement. Un bon copain qui est aussi un mauvais copain, ça existe. À vrai dire, Bertie et moi, on avait une influence néfaste l'un sur l'autre. À l'automne et au printemps, je me déplaçais à vélo parce qu'on habitait une ville pleine de montées et que c'était un bon moyen de me muscler les jambes et les fesses. Et puis, ça me permettait de réfléchir et d'être seul, ce que j'aimais bien. Pour rentrer à la maison du lycée, il fallait prendre Plain Street jusqu'à Gough Avenue, puis Willow Street jusqu'à Pine. Pine Street coupait Sycamore en haut de la colline qui redescendait vers ce foutu pont. Et au coin de Pine et de Sycamore, il y avait la maison de psychose, comme l'avait surnommé Bertie Bird quand on n'avait que 10 ou 11 ans. En fait, c'était la maison des Bowditch, Le nom figurait sur la boîte aux lettres, effacé, mais encore lisible si on plissait les yeux. N'empêche, Bertie avait raison. On avait tous vu ce film, comme les autres qu'il fallait forcément avoir vu à 11 ans, L'Exorciste et The Thing, et en effet, cette maison ressemblait un peu à celle dans laquelle Norman Bates vit avec sa mère empaillée. Rien à voir avec les petits pavillons et les pseudo-ranchs bien propres de Sycamore et de tout notre quartier. La maison de psychose était une construction de style victorien, pleine de coins et de recoins, au toit affaissé, qui avait sans doute été blanche mais avait pris une couleur que j'appelais « gris chat sauvage ». Tout autour de la propriété, il y avait une vieille clôture en bois qui penchait vers l'avant ou vers l'arrière. Un portillon rouillé, à mi-hauteur, barrait l'accès à l'allée pavée, presque entièrement recouverte de chiens-dents. La terrasse semblait se détacher peu à peu de la maison. Les stores restaient baissés en permanence, mais Andy Chen disait que ça ne servait à rien car les fenêtres étaient si sales qu'on ne voyait pas à travers de toute façon. Une pancarte défense d'entrée disparaissait à moitié parmi les herbes hautes. Sur le portillon, une autre pancarte, plus grande, indiquait « chien méchant ». Andy racontait une anecdote à propos de ce chien, un berger allemand nommé Radar, comme le type dans la série MASH. On avait tous entendu parler de ce chien, sans savoir que Radar était une chienne en réalité. On l'avait même entreaperçu quelquefois, mais seul Andy l'avait vu de près. Ce jour-là, racontait-il, il s'était arrêté en passant sur son vélo parce que la boîte aux lettres de M. Boditch était ouverte et tellement pleine que des prospectus jonchaient le trottoir, éparpillés par le vent.
« Je les ai ramassés et je les ai fourrés dans la boîte avec tous les autres, » dit-il. « Je voulais juste lui rendre service, moi. » Soudain, j'entends des grognements et des aboiements du style « Viens voir, viens voir !» Je lève la tête et là, je vois débouler ce kleps monstrueux. Il pesait au moins 50 kilos, avec une gueule pleine de dents, de la bave qui sortait. Et putain, qu'est-ce qu'il avait les yeux rouges !
Ouais, c'est ça, dit Bertie. Comme Cujo dans ce film. Arrête !
Je t'assure, dit Andy. Ma parole ! Si le vieux lui avait pas gueulé dessus, il aurait traversé le portillon. Tellement mal en point qu'il aurait eu besoin de médicure.
Médicaire, rectifiai-je.
Bref, le vieux sort sur sa terrasse et se met à gueuler. Radar, couché ! Et là, le kleps s'allonge à plat ventre. Sauf qu'il n'arrêtait pas de me regarder, toujours en grognant. Et le vieux me lance « Qu'est-ce que tu fiches, petit? Tu voles mon courrier ?» Et moi « Non, non, monsieur. Il était tombé, alors je l'ai ramassé. Votre boîte est sacrément pleine, monsieur. » Là, il me répond « Mon courrier, je m'en charge. Toi, fiche le camp. C'est ce que j'ai fait. »
Andy secoua la tête.
« Ce chien, il m'aurait sauté à la gorge, j'en suis sûr. »
Moi, j'étais sûr qu'Andy exagérait, comme d'habitude. Néanmoins, ce soir-là, j'ai interrogé papa au sujet de M. Boditch. Il ne savait pas grand-chose sur lui, à part que c'était un célibataire qui vivait déjà dans cette maison à moitié en ruine avant que lui-même emménage dans Sycamore Street, il y avait bien 25 ans de ça.
Ton copain Andy n'est pas le premier qui l'envoie au diable. Boditch est réputé pour son mauvais caractère et pour son berger allemand tout aussi mal luné. La municipalité aimerait bien qu'il casse sa pipe pour pouvoir détruire cette baraque. Mais il tient bon. Je lui glisse deux ou trois mots quand je le croise, ce qui n'arrive pas souvent. Il me paraît plutôt courtois, mais je suis un adulte. Certains vieux bonshommes sont allergiques aux enfants. Si tu veux un conseil, Charlie, évite-le.
Ce qui ne me posa aucun problème jusqu'à ce jour d'avril 2013, dont je vais vous parler maintenant. 12. En rentrant chez moi à vélo, après l'entraînement de baseball, je m'arrêtai au croisement de Pine et de Sycamore pour décoller ma main gauche du guidon et la secouer. Elle était encore rouge et en feu après les exercices de l'après-midi dans le gymnase. Le terrain demeurait trop boueux. Le coach Harkness, responsable également du basket et du cerceau, m'avait placé sur la première base, pendant que des gars qui postulaient au poste de lanceur s'entraînaient à envoyer des boulets de canon. Certains avaient une sacrée force. Je ne dirais pas que le coach voulait se venger parce que j'avais refusé de jouer au basket. Les Hedgehogs avaient remporté 5 victoires pour 20 défaites la saison précédente. Mais je ne dirais pas le contraire non plus. La vieille maison victorienne de M. Boditch, affaissée et pleine de coins et de recoins, se trouvait sur ma droite. Et, vue sous cet angle, elle ressemblait plus que jamais à la maison de psychose. Au moment où je reprenais le guidon, prêt à repartir, j'entendis un chien pousser un hurlement. Il venait de derrière la maison. Je pensais au monstre décrit par Andy, avec ses crocs, ses yeux rouges et la bave qui dégoulinait. Mais ce n'était pas les « yaba, yaba » d'un animal féroce qui attaque. C'était un hurlement de tristesse et de peur, peut-être même de chagrin. Depuis, j'y repensais, me demandant si ce n'était pas un sentiment rétrospectif, mais je ne crois pas, parce que ça a recommencé. Puis, une troisième fois, mais moins fort, avec moins de détermination, comme si le chien se disait « à quoi bon ?» Et puis, beaucoup plus faible que le dernier hurlement, « à l'aide !» Sans ces hurlements, j'aurais dévalé la colline jusque chez moi et j'aurais bu un verre de lait avec un demi-paquet de Milano Pepperidge Farm, heureux comme un prince. Ce qui aurait pu être fatal à Monsieur Bowditch. L'après-midi touchait à sa fin, les ombres s'allongeaient à l'approche du crépuscule et c'était un mois d'avril sacrément froid. Le vieil homme aurait pu rester allongé dehors toute la nuit. On me félicita de lui avoir sauvé la vie. Un bon point supplémentaire pour mon entrée à la fac si, comme le suggérait mon père, j'avais mis ma modestie de côté et joint à mon dossier d'inscription l'article publié une semaine plus tard. Mais je n'y étais pour rien, ou presque. C'était Radar qui, avec ses hurlements de désespoir, l'avait sauvée.